Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Arnaud Rousseau.
Bonjour Apolline Demelin.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président de la FNSEA depuis 2023. L'agriculture, elle est en crise depuis des années. Les colères agricoles qui se multiplient, mais elle est désormais menacée de disparaître. Voilà ce que vous nous dites. Le pronostic vital de l'agriculture française est engagé. Sébastien Lecornu avait solennellement affirmé que l'agriculture était son dossier prioritaire de la rentrée. C'est mon dossier numéro un. Il avait promis des mesures, elles devaient arriver aujourd'hui, puis hier soir, finalement, dernière minute, il a dit « bah non, ça va pas venir tout de suite, vous attendrez ». Vous pouvez attendre ?
Non, évidemment, on peut pas attendre, mais le sujet pour nous ne sont pas les quelques jours éventuellement que le gouvernement peut prendre pour affiner le dossier. Ce qui compte pour nous, c'est que les annonces, je l'espère au plus tard en début de semaine prochaine, montrent la compréhension du gouvernement de la situation que vous venez de décrire, qui est absolument catastrophique. Et donc, ce qui compte pour nous, c'est à la fois la capacité à réagir maintenant, et puis ensuite à se projeter. Mais le sujet numéro un.
Vous avez une date?
Je n'ai pas de date.
C'est-à-dire que là, il n'y a plus de date.
Écoutez, ils ont dit quelques jours. Encore une fois, pour moi, le sujet n'est pas de savoir si c'est demain ou lundi.
Si c'est dans les jours qui viennent, ça va.
Oui, bien sûr. Nous ne pouvons pas attendre. Pour une raison simple, et soyons concrets. L'agriculteur qui doit semer son blé, doit savoir, et c'est dans quelques semaines.
On sème le blé la dernière semaine de septembre.
Absolument. Eh bien, achète-t-il ses semences, les prépare-t-il, oui ou non? L'éleveur qui déjà est en train d'affourager, c'est-à-dire de nourrir ses animaux avec de l'herbe qu'il avait prévu pour l'hiver, est-ce qu'il a les moyens de racheter du fourrage ou est-ce qu'il se sépare de ses animaux? Ça, c'est très concret et c'est maintenant. Les décisions se prennent maintenant.
Canicule, incendie, sécheresse, effondrement des productions, le constat est terrible. Est-ce que vraiment c'est cet été l'été de trop?
En tous les cas, c'est une épreuve particulièrement difficile. Vous savez, les agriculteurs sont habitués à vivre avec les affres du climat. Ça fait partie intrinsèquement de leur métier. Mais quand vous avez un épisode de cette ampleur et que par ailleurs, vous l'avez dit, il succède à des années difficiles, il y a un trop-plein. Et de surcroît, quand vous n'avez pas de vision politique de ce qu'on veut faire de l'agriculture en Europe ou en France, vous vous interrogez sur le fait de continuer à faire ce métier qui, par ailleurs, a du sens. Je rappelle que nourrir les Français me paraît être noble, mais que de plus en plus, nous importons notre agriculture du reste de la planète, près d'un tiers aujourd'hui.
Pour la première fois, hein, la France importe davantage qu'elle n'exporte.
Et nous sommes donc dans une situation où c'est stop ou encore. Où il y a une vision qui nous permet de continuer et des moyens, et je dis pas simplement des moyens de l'État, c'est aussi des moyens dans l'ensemble des filières. Moi j'en appelle aussi aux consommateurs.
On va y venir, parce que ça aura des conséquences évidemment sur les prix, mais vous appelez une forme de solidarité. Je recevais d'ailleurs ici même le patron d'Intermarché hier. On verra aussi quelle est leur réponse et si elle est à la hauteur. Une question malgré tout, est-ce que vous avez rendez-vous avec Sébastien Lecornu? Je rappelle ce qu'il a quand même dit le week-end dernier, il y a une semaine. Il a dit il faut deux plans pour les agriculteurs. Un plan de soutien et de sauvetage pour passer l'hiver, puis un plan de relance pour 2027. Est-ce que il vous l'a dit dans les yeux? Est-ce que vous avez rendez-vous avec lui? Est-ce que vous savez de quoi il parle?
D'abord, je me réjouis de cette prise de conscience, mais je crois que le Premier ministre le savait déjà. J'ai rendez-vous à Matignon la semaine prochaine, le 8 septembre, avec le Premier ministre. Évidemment, ce que je souhaite, c'est que les annonces aient été faites avant, pour qu'on puisse se projeter. Il a raison de dire que d'abord, la situation, c'est l'urgence. Est-ce que oui ou non, comme n'importe quelle entreprise française, j'ai la trésorerie pour pouvoir me projeter et préparer le cycle culturel suivant, en gros, éviter le suraccident ou pas? Et par ailleurs, est-ce qu'on peut commencer à parler de la suite? Parce qu'on va pas pouvoir attendre les présidentielles. On a besoin de décisions dès 2027, notamment dans le budget.
La question de l'effondrement des productions d'abord. Je voudrais que l'on regarde, j'allais dire rayon par rayon, les salades. Il suffit de faire ses courses pour se rendre compte qu'il y en a quasiment plus dans les rayons. Elles manquent, et pas que les salades lavées un peu industrielles. Non, toutes les salades ne sont plus au rendez-vous. Est-ce que la production s'est effondrée? Est-ce que vous allez réussir à la relancer? On dit qu'il va y avoir beaucoup de concombres, mais très peu de salades.
Oui, vous avez raison. Quand vous êtes maraîcher et que vous faites en plein champ, les salades et d'autres productions, vous avez subi un été meurtrier. Quand il fait 40 degrés et que vous n'avez pas d'eau, Même avec de l'irrigation, vous n'avez la plupart du temps pas de production ou une production dégradée. Et je le dis parce qu'on a parlé des légumes, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que les pommes qui vont arriver dans quelques semaines auront aussi des impacts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous êtes maraîcher, y compris dans le nord de la France, j'avais au téléphone il y a quelques jours des maraîchers du Nord Finistère, qui est une région où il pleut habituellement de manière importante. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe en chou-fleur, c'est la catastrophe en brocoli. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de production et que là, les quelques pluies qui sont arrivées vont probablement permettre de préparer l'avenir, mais que c'est extrêmement difficile. Et le sujet de fond, c'est à la fois la production, mais c'est aussi le prix.
Parce que forcément, ça aura des conséquences. Parce que moins de fruits, les prix vont évoluer. Est-ce que c'est aussi plus globalement un choix qui a été fait par la France, que l'alimentation soit toujours tirée vers le bas dans les prix ? Alors oui, pour le pouvoir d'achat, mais au mépris des agriculteurs. Est-ce qu'il faut changer cette logique-là ?
C'est une nécessité. C'est une nécessité. Et je veux le dire parce que les gens qui nous écoutent disent oui, mais moi, à la fin du mois, c'est compliqué. Prenons un exemple concret. Une boîte d'haricots verts, une boîte de conserve, donc un produit extrêmement standard, qui pèse 800 grammes, dans lequel il y a à l'intérieur 440 grammes de haricots verts, qui coûte 2,50 euros, 2,60 euros dans un supermarché français. La part de haricots verts payée au producteur, c'est moins de 13 centimes, Apolline de Malherbe. Moins de 13 centimes sur 2,50 euros.
Le reste, ça va où ? Ça va à qui ?
Le reste, c'est évidemment de la transformation, de la logistique,
c'est quoi,
la distribution,
c'est
des marques.
Écoutez, c'est, je sais pas, Bonduelle ou,
écoutez,
ou je ne sais
c'est,
qui.
C'est la chaîne tout au long. C'est la raison pour laquelle.
C'est le supermarché, Leclerc ou Intermarché. Mais c'est eux finalement.
C'est toute la chaîne. Et encore une fois, ne laissons pas penser qu'il n'y a pas de création de valeur entre le haricot qui sort du champ du producteur et le supermarché, il y a tout un tas de chaînes de valeur. Ce que je veux expliquer, c'est que un petit peu d'inflation alimentaire n'est pas un drame. Nous parlons de quoi pour le producteur ? Nous parlons de 2 centimes sur cette boîte de haricots. De passer de 13 centimes à 15 centimes, ça changerait la donne. Et vous voyez bien que si on veut continuer à consommer français, c'est absolument ce qu'il faut faire. Il faut rompre avec cette idée qu'il n'y aura jamais d'inflation et que se nourrir, c'est toujours moins cher.
C'est très intéressant ce que vous nous dites, Arnaud Rousseau, parce qu'évidemment, à la fois politiquement, j'allais dire même vis-à-vis du grand public, l'idée de dire bah, il faut accepter. En fait, on a l'impression que ça fait des années qu'on est là à dire « Ah, l'inflation, au secours !» Et vous vous dites ce matin « Faut accepter ». En fait, faut accepter à un moment qu'il y ait un peu d'inflation sur l'alimentaire.
C'est du bon sens. Dans nos fermes, nous avons des collaborateurs. Le coût du travail augmente tous les ans. Et c'est normal pour rémunérer nos collaborateurs. Le coût de l'énergie, mais enfin, chaque Français voit bien que quand il fait le plein à la pompe, ça a augmenté. Le coût de nos matières premières.
Donc,
augmente.
L'inflation alimentaire, non seulement elle est nécessaire, mais au fond, elle est vertueuse. C'est ce que vous nous dites. Elle
Alors,
est saine.
Elle est, en tous les cas, pour peu qu'elle soit maîtrisée. Parce que je voudrais pas non plus que la traduction de mes propos, ce soit, on va faire n'importe quoi. J'entends encore une fois que se nourrir, pour un certain nombre de nos compatriotes, c'est compliqué. Mais l'enjeu, c'est la souveraineté. C'est la capacité à garder une agriculture française au moment où elle s'effondre. Un tiers est importé, notre balance commerciale s'effondre, alors que par ailleurs, nous avons tout pour réussir.
Arnaud Rousseau, est-ce que ça, vous allez pouvoir le mettre en œuvre ? C'est-à-dire qu'on le sait bien, ici en France, il y a des règles, et notamment cette règle de discussion des prix, négociation des prix, c'est une fois par an, c'est au 1er mars, ils sont arrêtés pour l'année. Vous allez rouvrir les négociations les industriels, avec les distributeurs ?
Nous souhaitons effectivement que dans les filières...
Avant mars,
si je le souhaite, bien sûr, nous souhaitons que il puisse y avoir des réouvertures de négociations commerciales.
Mais vous le souhaitez, mais est-ce qu'ils vous disent oui ? Est-ce qu'ils ont accepté ?
Écoutez, ça, c'est la responsabilité de la ministre et c'est la responsabilité des acteurs. Moi, j'ai entendu sur votre antenne Thierry Cotillard dire
le patron des magasins Intermarché.
On est prêt à faire un effort, dont acte. Et encore une fois, justifions ces hausses de prix, mais je crois que le consommateur comprend qu'avec ce qui s'est passé cet été, c'est plus difficile de produire. Et la rareté va faire partie maintenant de notre environnement. Ça va être plus difficile de produire avec le dérèglement climatique. La France a besoin de faire un certain nombre de réformes structurelles. Nous avons commencé avec la loi d'urgence agricole. Stocker de l'eau est absolument vital.
Quand Thierry Cotillard et les autres disent « Ah, on va faire des grandes opérations fruits et légumes moches », ça suffit ça ?
Non, bien sûr que non.
Non, mais on a l'impression que c'est la réponse. C'est « Ah, non, mais on va accepter des fruits et des légumes de plus petit calibre, les fruits et légumes moches, et on va les vendre chez nous, et c'est un geste très généreux. »
C'est un premier pas, par ailleurs nécessaire, mais vous voyez bien qu'il faut aller plus loin. Il faut accepter de dire que si on veut garder une agriculture française, on peut pas expliquer aux consommateurs en permanence que c'est de la déflation et que de toute façon l'alimentation restera toujours au même point parce que la doctrine de pas d'inflation alimentaire est ancrée chez tout le monde.
Ça n'est plus possible. Y aura-t-il, et faut-il s'habituer à une forme de rareté ?
Bien sûr, vous savez, les impacts du climat, ça n'est pas qu'en France. Je pense à nos collègues des territoires ultramarins. Ils subissent des sécheresses carabinées. J'avais mes collègues de la Martinique il y a quelques jours au téléphone. Pour eux, c'est terrible. Je sais que c'est pareil en Guadeloupe. Le reste de la planète souffre aussi d'un certain nombre d'impacts du climat. On a parlé du phénomène El Niño. Nos collègues allemands ont subi une sécheresse. Donc, la production agricole qui dépend du climat va être sous pression sur la planète. Et donc, cette difficulté nécessite que nous adaptions. C'est ce que font les agriculteurs. Mais il faut donner quelques moyens de continuer tout de suite. Et ensuite, il faut poser la vision et mettre les moyens en face.
S'adapter, on va voir aussi la question notamment du stockage de l'eau. Mais encore une question sur les rayons, les œufs, la volaille, le lait. On nous parle de 30% de baisse de production de lait pour certaines vaches parce que elles ont moins bu, parce qu'il y avait plus de sécheresse. Est-ce que c'est en effet le cas? Et est-ce que le prix du lait doit, là encore, augmenter? Est-ce qu'on doit tous l'accepter, j'allais dire collectivement?
Évidemment, les impacts de 40 degrés sur un troupeau de vaches laitières, c'est des impacts qui vont de moins 15 à moins 30% de production de lait. Mais je pourrais vous dire la même chose sur le maïs qui va faire sa plus faible récolte depuis les 45 dernières années. Nous avons parlé du maraîchage. Partout, il y a une pression à la baisse. Voir du lait en supermarché à 80 centimes la brique de lait UHT, ça n'est pas tenable. Nous ne pouvons plus voir du lait en grande surface en dessous d'un euro le litre, et encore. Donc ça doit être une prise de conscience collective. Je vous parlais de quelques centimes. Acheter une brique de lait 1 euro, c'est garantir aux producteurs un revenu et la poursuite de son activité.
Si, vous dites à tous ceux qui nous écoutent, si votre brique de lait, elle est moins de 1 euro, c'est qu'il y a un problème.
C'est que vous êtes en train de détruire la production laitière française. Il faut le dire clairement.
Ils avaient du temps pour se préparer. La candidate écologiste Marine Tondelier accuse le gouvernement d'impréparation globalement sur la séquence climatique, mais aussi sur le grand plan pour l'agriculture. Elle dit ils s'y sont pris au dernier moment, ils calculent parce qu'en réalité ils ne sont pas prêts. À ce niveau d'impréparation, c'est très préoccupant. Est-ce que vous partagez ?
Écoutez, on est dans une situation particulièrement difficile et on aura besoin de tout le monde pour réagir. D'abord, je le dis, on aura besoin de l'ensemble des partis politiques. Et au moment de la présidentielle, on souhaiterait que le sujet, pas seulement de l'agriculture, mais de cette vision d'une souveraineté pour le pays, avec une acceptation de la remise en cause du pas d'inflation, soit un sujet de campagne présidentielle. Et pas que pour l'agriculture. J'ai discuté avec des artisans, avec des commerçants. C'est la même problématique. Deuxièmement, ce qui s'est passé est assez inédit. Encore une fois, le monde agricole a déjà subi des impacts du climat. Mais là, c'est allé très loin. Ce qui compte, c'est pas de dire « vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça ». Les écologistes n'ont pas beaucoup aidé au stockage de l'eau, par exemple, ces 20 dernières années. Mais nous avons besoin qu'il y ait une réaction à la hauteur. Une réaction du gouvernement, une réaction des filières, et je le dis aussi, une réaction du consommateur.
On va revenir sur les candidats. Par exemple, Édouard Philippe dit justement qu'il faut stocker l'eau, mais puisque vous dites les écologistes n'ont pas forcément aidé, votre confrère et concurrent, la coordination rurale, Bertrand Ventraux, est jugé aujourd'hui pour avoir eu cette phrase lorsqu'il a été élu à la tête de la coordination rurale. Les écolos, la décroissance, ils veulent nous crever. Vous aviez partagé le constat au-delà des mots ?
Non, mais au-delà des mots, c'est quand même assez essentiel de rappeler que la justice l'a convoqué pour répondre de ça. En tous les cas, l'écologie politique a causé un préjudice majeur en refusant de regarder la réalité en face. Nous avons besoin d'eau. Et d'ailleurs, à peu près tous les syndicats agricoles
ils
le disent.
Ils ont regardé en face la question du dérèglement climatique. Ils ont alerté. Mais ce que vous leur reprochez, c'est d'avoir refusé
les moyens
une autre
de
manière de se réadapter.
Le dérèglement climatique, les agriculteurs, ça fait longtemps qu'ils ont compris. Quand les vendanges sont avancées de 3 semaines, quand les récoltes de fourrage sont avancées parfois d'un mois, quand la moisson a lieu maintenant fin juin, début juillet, quand j'étais plus jeune, c'était jamais avant le 14 juillet. Donc tout ça, on le voit dans nos fermes. C'est très concret.
Les vendanges, qui pour la plupart ont déjà commencé alors que normalement c'était fin septembre.
Absolument. Mais la question maintenant que le constat est posé, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et nous, vous savez, on vit de choses
concrètes. Sur le stockage de l'eau, est-ce que vous estimez, Arnaud Rousseau, que si la guerre des mégabassines n'avait pas eu lieu, l'agriculture se porterait mieux ? Est-ce que cet été aurait été moins difficile à traverser ?
Mais en tous les cas, si on avait eu de l'eau à disposition, on aurait été capable de mieux résister. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu des impacts.
L'Espagne le fait, hein.
Mais attendez, l'Espagne le fait, l'Italie le fait, le Maroc le fait, tous les gens qui ont été avant nous confrontés à ces problématiques, quelle que soit la couleur politique de leur gouvernement, ont pris des mesures. Maintenant, il faut réagir. Et stocker de l'eau, c'est pas seulement un parti pris agricole. Vous avez vu les incendies cet été. On sait que demain, pour le petit nucléaire, on en aura besoin. On sait que pour l'adduction d'eau potable, on en aura besoin. Tout le monde aura besoin d'eau. Donc, on a besoin de la stocker. C'est du bon sens. Maintenant, il faut passer aux travaux pratiques. La loi d'urgence ouvre un certain nombre de possibilités. Je veux que d'ici l'été prochain, les premiers projets soient en route. Et là, on verra bien si les ceux qui luttent, en tous les cas, contre cette approche, déposent des recours et font
une fois de plus. Vous alliez dire quoi? Vous avez ouvert vos guillemets, puis vous n'avez pas osé.
Non, mais j'ai pas osé. Vous voyez très bien de qui je parle. Ceux qui systématiquement attaquent les projets quand on veut développer un poulailler, quand on veut faire une retenue collinaire. Voilà.
Ce sont des spécialistes, les écologistes militants.
Oui, une certaine militance historique qui a lutté contre le nucléaire, qui lutte maintenant contre ce qu'elle appelle l'agriculture intensive. Moi, je rappelle que l'agriculture française est une agriculture familiale, implantée dans les territoires, et que face à ce qui se passe sur la planète, si nous ne réagissons pas.
Elle n'est pas qu'une agriculture familiale.
Bien sûr que si.
Elle n'est pas qu'une agriculture familiale. Non, mais quand on dit familiale, on a l'impression des petites exploitations.
Non, mais moi, je vous parle des capitaux.
Il y a aussi des très grosses exploitations. Et c'est d'ailleurs une des questions que les écologistes qui s'opposent à ces méga retenues d'eau avancent. Ils disent le problème, c'est que garder l'eau, oui, mais à qui va-t-elle être distribuée? Ils y voient une forme de lutte des classes.
Permettez-moi.
C'est comme ça qu'ils le lisent.
Permettez-moi de rétablir la vérité. Le foncier français est détenu par des petits porteurs. Et la quasi-totalité des exploitations agricoles françaises, avec quelques exceptions dans la viticulture, dans les grands crus, est détenue par des familles. Il n'y a pas de fonds de pension en France, Apolline de Malherbe. Maintenant, la lutte des classes, comme on l'appelle, mais le sujet aujourd'hui, c'est de nourrir les Français. Si on ne développe pas une capacité à réagir, il n'y a plus d'agriculture française. Donc on aura réglé le problème de la lutte des classes. Ce qu'il faut absolument aujourd'hui, c'est permettre aux agriculteurs de continuer à produire. Ou alors on dit, ça vient d'ailleurs, on délègue notre souveraineté, mais sur l'alimentation, quand on joue à ça, ça se finit toujours très mal dans l'histoire.
Arnaud Rousseau, une question aussi sur la volaille. La volaille, et notamment la volaille ukrainienne ou importée, et la question aussi du bœuf brésilien. Sur la volaille, on a découvert ces chiffres assez inouïs, en se disant qu'on avait pourtant des très belles exploitations de volaille en France. C'est pas la Sartoise près de Loué qui vous dira le contraire. Et pourtant, plus de la moitié du poulet qu'on consomme en France est importé. C'est toujours le cas, ça. Alors que ça fait 2 ans qu'on en parle. Rien ne s'arrange.
Ben c'est 55%, Apolline de Malherbe, des poulets que consomment les Français qui ne sont pas produits en France. Thaïlande, Brésil, Ukraine, tout ça dans des conditions de production qui ne sont pas les standards.
Les règles du jeu qu'on s'impose à nous, on ne les impose pas aux autres.
Mais non seulement les règles qu'on nous impose ne sont pas exigées des autres, mais on a des exemples très concrets. Vous parliez de la volaille, c'est évidemment le cas, mais je voudrais pointer du doigt ce que la Commission européenne vient de décider concernant le Brésil. Souvenez-vous, il y a 8 mois à Strasbourg.
C'est assez inouï. À partir d'aujourd'hui, je voudrais bien redonner cette information, à partir d'aujourd'hui, les importations de viande brésilienne, qui pourtant avaient donc été autorisées, seront interdites. L'Union européenne suspend ces importations de viande brésilienne parce qu'effectivement, ils ont visiblement réalisé que ce n'était pas en conformité avec les règles européennes.
Nous le disions avec force il y a 8 mois.
Ils auraient pu vous écouter.
Ben, disons qu'on essaie de vous expliquer que nous étions dans l'excès, nous n'étions pas des gens sérieux, nous forcions le trait, nous faisions un syndicalisme un peu conservateur. Et puis tout d'un coup, 8 mois après, on découvre que finalement ce qui est importé n'est pas conforme à la législation européenne et on l'interdit.
Mais utilisation abusive d'antibiotiques, par exemple, sur l'élevage.
Est-ce que les responsabilités vont être pointées dans cette affaire? Nous avons cessé de dire que nous étions d'accord pour commercer, pour le peu que ce soit loyal. Ça ne l'était pas. On nous a expliqué qu'il y avait des intérêts autres et que la réelle politique conduisait, par anticipation, malgré le recours devant la Cour de justice européenne, à mettre en place cet accord. Et aujourd'hui, on nous explique que finalement, pour protéger les consommateurs européens, on va interdire. Mais enfin, c'est inacceptable. Qui est responsable de ça? Qui va oser, devant les Européens, assumer cette incohérence majeure que nous dénoncions depuis des années? Continuer à produire en Europe avec une alimentation parmi les plus sûres de la planète pour garantir aux consommateurs la qualité, la sécurité, c'est ça notre boulot à nous les agriculteurs.
Suspension non seulement effectivement des importations de viande, de volaille, de bœuf brésilien, mais aussi du miel
des œufs.
Et des œufs. Ça veut quand même dire que tout ça aurait pu être anticipé. Est-ce que l'Union européenne s'est trompée de combat?
En tous les cas, elle a fait preuve
Est-ce qu'elle est aujourd'hui votre ennemi plutôt que votre allié?
Non, vous savez, nous, on a toujours dit que face aux grands blocs mondiaux, il fallait réagir en européen. Mais effectivement, nous avons dénoncé avec force cette vision de ce que l'Europe a appelé le Green Deal, le pacte vert, qui était une vision idéaliste, très naïve. Et il me semble que, au moins, s'il y a une vertu à cette réaction d'interdiction des imports, c'est que peut-être il y a une prise de conscience qui va conduire à garantir que, maintenant, on va cesser notre naïveté, on va contrôler ce qui arrive, et surtout, on va redonner de l'ambition à l'agriculture européenne, parce qu'on peut pas, en permanence, expliquer que ça vient d'ailleurs et détruire la production. Derrière la production, il y a aussi la création de valeur, il y a la restauration des finances publiques, il y a tous ces sujets-là.
Arnaud Rousseau,
les tracteurs aux portes de Paris, les blocages sur un certain nombre d'autoroutes. Est-ce que ce sont des images que l'on va revoir ?
Partout où je vais sur le terrain, vous savez, j'étais dans l'Aveyron, je serai cet après-midi en Normandie, les gens disent, on va attendre de voir quelle est la prise de conscience des pouvoirs publics, mais je le dis aussi, des filières, du consommateur, parce que ça peut pas simplement être l'État, nous sommes conscients de l'État des finances publiques, mais s'il n'y a pas une réaction massive avec une mise en place d'un certain nombre de moyens très concrets qui donnent des signaux, alors évidemment, cet hiver, les gens qui sont au bord du gouffre, voire tomber dans le gouffre. Quand j'emploie l'expression de vraiment le diagnostic vital est engagé, c'est que on en est là, Apolline de Malherbe. Il y a des gens qui disent, moi c'est terminé, je peux plus, j'aime ce métier, mais c'est plus possible. Quand vous êtes en zone intermédiaire, quand vous êtes en Occitanie, qui depuis plusieurs années subit cette affre, quand vous êtes aujourd'hui viticulteur et que vous voyez les foires au vin dans lesquelles on voit du vin à vil prix, ça n'est plus tenable.
Mais est-ce que ça veut dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cette colère, elle est pour l'instant retenue parce qu'ils ont encore espoir, mais au fond, le gouvernement, en annonçant hier que finalement, ils n'étaient pas prêts, que le plan ne serait pas annoncé aujourd'hui, que les aides ne seraient toujours pas donc ni annoncées ni versées. Est-ce qu'ils jouent avec le feu ?
En tous les cas, ça fait 3 hivers qu'on est dehors. On a besoin effectivement d'une réponse rapide et tout porte à croire que la colère n'a pas disparu. Je vous confirme même que la colère est là. Donc, on a besoin de travailler avec les pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle j'irai à l'invitation du Premier ministre la semaine prochaine. On va voir les moyens mis en œuvre. Et si on considère que ça n'est pas suffisant ou qu'en tous les cas, les choses ne vont pas assez vite, eh ben, à nouveau, on viendra exprimer notre colère. Mais je le redis, vous savez, la colère, c'est pas un sport qu'on aime pratiquer dans le monde agricole parce que tous les hivers, on a autre chose à faire. On a énormément d'autres choses à faire. Mais on veut se battre pour ce métier parce qu'on pense que ça a du sens pour le pays.
Merci Arnaud Rousseau d'avoir été mon invité ce matin. Vous êtes à la tête de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Merci à vous. Il est 8h50 sur RMC et BFM TV.